Tunisie, comment écrire dans un pays instable, témoignage avec des écrivains en devenir ou des écrivains déjà confirmés. Notre invité Afrique, Faye Raman-Rodrigue Connet, chef du projet Sahel à l'Institut d'études de sécurité, l'ISS qui propose d'en finir avec les sanctions contre les putschistes d'Afrique de l'Ouest. Ses explications dans un instant. Afrique économie, on va en Côte d'Ivoire, on va voir qu'il faudrait transformer les mangues pour valoriser la filière. Et avant le journal, Maman bien sûr. Et tout de suite, les sports en direct avec Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Le Soudan du Sud aura-t-elle la seule équipe masculine de basket à représenter l'Afrique au JO ? Plusieurs sélections ont encore une chance.
4 au total, l'Angola, l'Égypte, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Chacune dispute un tournoi de qualification olympique et ça commence mal. Toutes ont perdu leur premier match et vont donc devoir remporter le second pour espérer voir les demi-finales de leur TQO. Du côté de Riga, en Lettonie, le Cameroun n'est pas passé loin de battre le Monténégro. Courte défaite, 70-66. Rageant pour l'ailier Jordan Bayeye, qui reconnaît avoir eu du mal à contenir la star Nikola Vucevic, le pivot monténégrin des Chicago Bulls.
C'était vraiment un match difficile. Nous étions bien préparés, mais le Monténégro a joué à un niveau très élevé. Nous avons tenté de défendre à deux sur Vucevic, mais ça n'a pas suffi. Nous aurons un autre match demain et il faudra tout donner pour gagner. De toute façon, nous n'aurons pas le choix. Soit on gagne, soit on rentre à la maison.
Et plus le droit à l'erreur, win or go home, comme le dit le slogan. Cameroun-Brésil, le match de la dernière chance, c'est à 16h, temps universel.
Et l'équation est similaire pour la Côte d'Ivoire.
À Porto Rico, les éléphants du basket n'ont pas démérité non plus contre la Lituanie. Eux aussi se sont inclinés de 4 points, 97 à 93. Mais rien n'est perdu. Si les Ivoiriens battent tout à l'heure le Mexique, ce soir même à 21h TU, ils rejoindront les demi-finales. Même objectif pour l'Angola, dominé par l'Espagne, et qui doit vaincre le Liban à 15h30 TU. Enfin à 16h Arnaud, mission très périlleuse pour l'Égypte, obligée de battre la Grèce chez elle au Pirée pour espérer ne pas rentrer à la maison.
En cyclisme sur les routes du Tour de France, tous les voyants sont au vert pour un Érythréen.
Et oui, vert comme le maillot dont s'est emparé Binyam Girmay lundi en remportant sa première victoire sur la grande boucle. Cela signifie qu'il est en tête du classement par points, l'équivalent du classement de meilleur sprinter. Hier, le coureur de la formation Intermarché ou Anti a donc étreiné son maillot vert. Une petite consécration pour Binyam Girmay.
Yeah, I feel green also, you know. It's always nice to be.
Le vert me va très bien, je trouve. C'est très sympa de porter ce maillot. Et pour moi, en tant que sprinter, c'est mon but absolu sur toutes les courses. Peu importe que cela soit sur le Giro, sur la Vuelta. Mais c'est encore plus spécial sur le Tour. Le maillot vert, c'est le symbole des meilleurs sprinteurs du monde. Donc je suis vraiment super content de le porter. Vous n'avez pas cette chance, cette opportunité tous les jours, vous savez. Ni même tous les ans. Donc je suis vraiment juste super content.
L'Érythréen Binyam Girmay qui a vu hier Mark Cavendish s'imposer. Le Britannique de 39 ans détrône Eddy Merckx au nombre de victoires d'étapes sur le Tour de France. C'est sa 35e. Aujourd'hui, 6e étape entre Mâcon et Dijon.
Et puis en football, aujourd'hui, première étape vers la prochaine CAN qui se jouera au Maroc entre la fin de l'année 2025 et le début de 2026.
Le tirage au sort des groupes de qualification se tient aujourd'hui à Johannesburg en Afrique du Sud à 12h30 temps universel. Il sera effectué par Emers Faye, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire tenante du titre, ainsi que Marwan Chamakh, l'ex-international marocain passé par Bordeaux et Arsenal. Et puis toujours en Afrique du Sud, les Mamelodi Sundowns vont changer d'entraîneur. Roulani Mokwena, 37 ans, quitte le club demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions. Le Brésilien aura passé 4 ans du côté de Pretoria.
Merci Victor Missistrano et à tout à l'heure dans RFI Matin.
RFI, toute l'actualité, Arnaud Pontus.
Avec à la une les États-Unis et les interrogations autour de l'état de santé, de l'état de forme de Joe Biden. Pourra-t-il, peut-il poursuivre sa campagne pour la présidentielle de novembre? D'après le New York Times et CNN, le président candidat réfléchirait lui-même à l'opportunité de maintenir ou non sa candidature. Explication avec notre correspondant à Washington, Guillaume Nodin, dès le début du prochain journal. Ce 4 juillet, c'est jour de vote au Royaume-Uni. 650 sièges de députés en jeu pour ces législatives anticipées. Les sondages sondages prédisent une victoire de la gauche travailliste, largement en tête des intentions de vote après 14 années de pouvoir des conservateurs. En France, le second tour des législatives, ce sera dimanche prochain. Hier soir, sur BFM, les représentants des trois grands blocs en présence se sont succédés à l'antenne. Ils n'ont pas débattu les uns avec les autres. Reportage en Tunisie. Le pays traverse une période mouvementée. On vous en parle régulièrement sur RFI. En ces temps troublés, les écrivains de Tunisie observent et racontent leur pays. Ces derniers jours, des auteurs de renom, le Congolais Alain Mabankou ou encore le Français Mabrouk Rachedi, étaient en Tunisie pour animer des ateliers d'écriture. Notre correspondante à Tunis, Amira Souilem, a pu assister à l'un de ces ateliers et elle a pu entendre ce qui inspire les auteurs tunisien en ce moment.
1, 2, 3, on y va.
Des exercices d'écriture minutés à la seconde près. En pleine médina de Tunis, le romancier français Mabrouk Rachedi mène son atelier au chronomètre. Premier exercice, écrire une histoire vraie et une fausse.
Il faut que la fausse histoire apparaisse vraisemblable, on puisse tous penser qu'elle soit vraie. Mon métier, c'est de raconter une histoire en faisant croire qu'elle est vraie. Ou en tout cas qu'elle est vraisemblable.
Face à lui, des jeunes romancières en devenir, comme Noël.
La culture tunisienne, je trouve que c'est une culture extraordinaire en termes de paradoxe. À la fois, on aime être très moderne, mais on est très conservateur. On est toujours, je pense, dans un dilemme permanent.
Elle, qui a vécu en France pendant de nombreuses années, n'a commencé à écrire qu'à son retour en Tunisie.
Je trouve que déjà la lumière, ça inspire. La société bouillonnante, les échanges humains, le côté humain en Tunisie, je pense que c'est ce qui a déclenché aussi mon envie d'écrire.
Quelques jours plus tard, toujours en plein centre de Tunis, c'est l'auteur congolais à grand succès, Alain Mabankou, qui fait face à 10 apprentis romanciers. Au-delà des techniques d'écriture, il veut surtout démythifier l'exercice.
Et la peur de commencer qui, chaque fois, nous saisit lorsqu'on écrit un nouveau livre.
Sénégal, Togo, Ghana, Nigeria et maintenant Tunisie, il veut faire sauter les verrous africains.
Beaucoup de jeunes auteurs ici ont des manuscrits, mais ils ne savent pas comment les envoyer à un éditeur ou ils pensent que leur manuscrit n'a pas le même poids que les manuscrits des autres, et ils restent comme ça, dans une fatalité qui s'installe comme une culture.
Tarek Lamouchi écrit de la science-fiction. Alors que son pays traverse une période mouvementée faite d'instabilité politique et économique, il y puise son inspiration.
Oui, l'angoisse, c'est un moteur de créativité, en fait. Donc, je crois que quand la situation elle est un peu difficile, ça donne des idées. La lecture, ça devient en quelque sorte, pour certains, un échappatoire pour sortir de cette réalité, et même pour les lecteurs aussi.
Première scène intérieure.
Des auteurs qui écrivent dans un pays réputé lire peu et qui comptent sur la jeune génération pour changer les habitudes. Amira Souilem, Tunis, RFI.
À Tunis, il est 5h50, 6h50 à Paris. Vous écoutez RFI Matin. Et notre invité Afrique à découvrir dans moins d'une heure maintenant sur la radio du monde. Nous serons avec Faye Raman Rodrigue Conné. Il est le chef du projet Sahel à l'Institut d'études de sécurité, l'ISS. L'ISS qui préconise de repenser la gestion des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Il faut notamment réviser le régime de sanctions contre les auteurs de putsch. C'est ce que dit l'Institut dans un rapport qui vient de sortir juste avant le sommet des chefs d'État de la CDAO. Un sommet qui aura lieu dimanche à Abuja.
Je pense que cette suggestion s'impose à la lumière de l'actualité. Nous constatons que la CDAO en particulier a de la peine à pouvoir clairement agir sur cette transition, alors qu'elle avait toute cette influence il y a quelques années. On constate clairement qu'elle semble ne pas réussir à mettre la pression sur les auteurs actuels des coups d'État dans la région. Et l'institution elle-même reconnaît qu'il y a besoin de pouvoir se réformer former et s'adapter de sorte à pouvoir faire face à ces crises. Le 24 février passé, qui était le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, le président en exercice, le président Tinubu, a appelé un réexamen de l'approche de l'organisation de sorte à enrayer cette dynamique des coups dans la région.
Est-ce à dire, faillamment Rodrigue Connet, qu'il faudrait supprimer les sanctions?
Non, pas du tout. Les sanctions sont utiles et elles sont nécessaires. Il ne peut pas avoir de règles sans sanctions, sinon les règles n'auront pas de sens. Donc un régime de sanctions pour nous réviser inclurait des critères d'application plus clairs, tout en restant flexibles et veillant surtout, et ça c'est important, à réduire autant que possible les effets sur les citoyens innocents, de sorte à limiter un peu les effets nocifs et aussi d'adopter une posture plus systématisée et plus adaptée aux différents contextes. Aussi, on pense qu'il faut une prévisibilité dans la gradation des sanctions sur la base des critères objectifs et une clarification des déclencheurs des différents niveaux de sanctions pour que l'instrument soit beaucoup plus efficace.
Le chef du projet Sahel à l'Institut d'études de sécurité et l'un des auteurs du rapport qui vient de paraître, Fahy Rahman, Rodrigue Connet, notre invité Afrique avec Christophe Boisbouvier tout à l'heure.
RFI Matin.
Afrique économie, comme hier, on va parler de mangue et nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire où la saison de la commercialisation de la mangue touche à sa fin. La Côte d'Ivoire produit chaque année près de 150 000 tonnes de mangue fraîche pour réduire les pertes et valoriser la filière. La transformation du fruit serait bien sûr une option. Il y a beaucoup de potentiel mais encore très peu de réalisations à ce jour. Reportage de Binta Diagne dans des usines qui se sont lancées dans la transformation de mangue fraîche en mangue séchée.
C'est une petite usine située dans un quartier périphérique de Ouangoloudougou. Ici, chaque jour, en pleine saison, ce sont 20 tonnes de mangues fraîches qui sont acheminées sur des tricycles par des producteurs de la région. Les mangues sont triées, lavées, puis traitées afin de répondre aux exigences sanitaires des clients. Sita Koulibaly supervise la salle de calibrage.
On enlève les déchets, tout ce qui n'est pas bien. Et puis bon, à la longueur, l'exigence du client qui demande, je veux telle taille. Donc par rapport à ça, on trie. Et puis après les tri, les bonnes mangues, on met dans les sachets, on pèse et puis on envoie ça chez le client.
Cette petite usine mise sur l'exportation vers le Ghana, puis l'Europe dans un second temps. Car selon Bazouma Ouattara, le directeur de l'usine de séchage de mangue de Ouangoloudougou, le marché intérieur n'est pas encore réceptif à ce produit.
En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de marché. Les Ivoiriens ne connaissent pas la mangue séchée. Les supermarchés non plus.
Donc vous, vos clients, ils sont où?
Ils sont au Ghana, c'est HPW. On a un client qui est fidèle et quelle que soit la situation, il prend d'autres mangues.
Pour cet entrepreneur, l'une des difficultés, c'est la maintenance des machines qui, pour l'essentiel, sont importées de l'étranger. Bazouma Ouattara.
Lorsqu'une pièce s'abîme, il n'y a pas le remplacement ici. On ne peut pas acheter, on n'a pas un magasin de vente des pièces en Côte d'Ivoire. On peut faire appel en Afrique du Sud et la pièce arrive par DHL. C'est compliqué.
La période de commercialisation est courte, elle dure à peine 3 mois. Pas évident donc d'investir dans le conditionnement des mangues. Pour contourner cet obstacle, René Yeo, le directeur de l'usine Ivoire Biofruits, a décidé de diversifier ses activités au sein même de son usine.
Il faut à la fois plusieurs machines pour qu'ils puissent faire une grande capacité en moins de 3 mois afin de pouvoir véritablement rentrer dans ces fonds. Au niveau de Ivoire Biofruits, nous avons envisagé diversifier notre système de transformation en essayant d'élargir à d'autres fruits tels que l'ananas, le coco et d'autres fruits tropicaux.
Ce responsable de la profession Intermangue préconise par ailleurs un soutien de l'État au privé afin de développer davantage l'industrialisation de cette filière. Binta Diagne, de retour de Ferke Sédougou, RFI.
Vos prochains rendez-vous échos dans RFI Matin. Les matières premières, le géant russe du diamant Alrosa se relance dans l'or. Et aujourd'hui l'écho, les questions économiques ont disparu de la campagne législative en France. Elles vont pourtant bien vite s'imposer au futur gouvernement. Et avant le journal, voici Maman, le sourire du jour. Maman au Gondwana, on ne dit plus armée gondouanaise, mais force de défense et de sécurité.
Oui, si tu es un habitué de la très très démocratique République, tu sais depuis longtemps que l'armée gondouanaise a changé de nom. Elle a fait un rebranding, comme on dit dans le monde moderne. Armée gondouanaise, ben c'est démodé. Aujourd'hui, on dit force de défense et de sécurité, FDS pour les intimes. Armée de libération, armée nationale, armée de l'air, armée de terre. Et c'est fini tout ça. Ça sent trop les années 1900 quelque chose, avec leur défilé de soldats ventrus, mal fagotés à la fête de l'indépendance, paradant avec des fusils de la Première Guerre mondiale et de vieux véhicules militaires aux roues peintes en blanc. blanc, comme lorsque tu mets tes souliers neufs pour aller danser au bal. Quand tu dis armé, on comprend que les gars qui sont dedans sont armés. Armes légères, armes lourdes, armes de combat. Mais ça, c'était avant, autrefois, autant jadis, quand seuls les militaires étaient armés en très très démocratique république. Il y avait d'un côté les militaires armés et de l'autre les civils désarmés, c'est-à-dire toi et moi, quoi. Les militaires ayant pour mission de protéger les civils, de les rassurer juste par leur présence protectrice et armée. Même si, dans la réalité gondouanaise, quand les civils voient des militaires armés dans la rue, ben ils ne sont jamais bien rassurés et ont juste une seule envie, rentrer vite à la maison et fermer portes et fenêtres. Aujourd'hui, on ne dit plus armée, mais FDS, Force de Défense et de Sécurité, parce que les choses ont changé. Eh oui, les militaires ne sont plus les seuls à être armés. Hein. Les armes sont partout aujourd'hui au Gondwana. Il n'y a plus d'un côté les militaires armés et de l'autre les civils désarmés. Non, non, non. Aujourd'hui, au 21e siècle, les civils sont armés aussi. Hein. Bah oui, groupes armés, djihadistes, rebelles, braqueurs, coupeurs de route, milices, terroristes, et j'en passe, et des civils armés à chaque coin de rue de la très très démocratique république. Mais attention, les civils désarmés sont toujours là. Hein. Oui, oui, on est là, on n'a pas bougé. Ils sont toujours au bas de la chaîne alimentaire, les civils désarmés. Éternel gnous de la savane, éternellement pourchassés et dévorés par les prédateurs armés. Les civils désarmés se retrouvent ainsi pris en étau entre les militaires armés et des civils eux aussi armés. Le pauvre civil désarmé ne sait plus qui est qui et qui n'est pas qui. Hein. Pour l'aider à faire la différence, on lui a d'abord dit qu'il y a les corps habillés d'un côté et les bandits armés de l'autre. Mais ça a déboussolé le pauvre civil désarmé. Parce que l'habit ne fait pas le corps habillé, hein, surtout quand il se fait racketter à chaque checkpoint de corps habillé. Et c'est pour ça qu'on lui a enfin dit qu'aujourd'hui, il y a les civils armés qui l'attaquent, le braquent, le débouillent, le kidnappent, le rançonnent, et de l'autre, ceux qui le défendent et assurent sa sécurité, c'est-à-dire les FDS, les Forces de Défense et de Sécurité, comme leur nom l'indique. Ne cherche pas à comprendre, hein, c'est comme ça. À lundi.
Merci Maman, à lundi.
Appelez-nous, exprimez-vous. Chantal Leroux.
Joe Biden est-il apte à exercer un second mandat ? Depuis sa prestation calamiteuse face à Donald Trump, des poids lourds du Parti démocrate s'interrogent publiquement sur l'état de santé du président. Qu'en pensez-vous ? Joe Biden doit-il se retirer ? Et qui pour le remplacer dans la course à la Maison-Blanche ?
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Si vous pensez que la nature est bien faite, que les plantes sont intelligentes et que l'entraide est une loi naturelle, cette émission est pour vous. Nous analysons tous ces préjugés avec humilité et humour en compagnie du biologiste Marc-André Sellos.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
L'épopée des musiques noires.
Samedi dernier, lors du 43e festival Jazz à Vienne, Nirina Rakotomavo et Oumu Sangaré se sont croisés sur la scène du Théâtre Antique. La jeune pianiste et chanteuse réunionnaise a précédé la flamboyante chanteuse malienne et ces deux interprètes uniques ont séduit et illuminé les yeux des spectateurs présents. Retour en reportage sur cette soirée multicolore.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
Samedi, à partir de 13h30 TU.
RFI.